Chapitre 22. Le droit de guerre de l'Antiquité, surtout dans les premiers temps de Rome, ne laissait aucune propriété aux vaincus. Le territoire conquis était divisé en trois parts. La part des dieux, la part de la République, la part des conquérants. Cette dernière part était celle qu'on partageait aux vétérans et dans laquelle on établissait des colonies. La part des dieux était attribuée au temple et gérée par les prêtres. Restait la part de la République, ager publicus. On juge, lorsque toute l'Italie et après l'Italie la Grèce, la Sicile, l'Espagne, l'Afrique, l'Asie furent conquises, on juge ce que dut être cette part de la République, cette ager publicus. Ce fut çà et là un immense apanage qui resta inculte. Apanage inaltérable que la République ne pouvait vendre, qu'elle pouvait louer seulement. Quel était l'esprit de la loi qui mettait ces terres en location? De créer des espèces de petites métairies pour des familles agricoles qui feraient suer à cette riche terre d'Italie 2 ou 3 moissons par an, de faire enfin ce qui se fait en France depuis le morcellement de la propriété, que 3 ou 4 arpents puissent nourrir une famille. Il n'en fut pas ainsi. Cela, on le comprend bien, donnait trop de peine aux agents de la République. Puis le moyen de réclamer des pots de vin pour des locations de 2 ou 3 arpents, on afferma pour 5 et 10 ans. De leur côté, les fermiers s'aperçurent qu'il y avait une chose qui occasionnait moins de dépenses et qui rapportait plus que l'agriculture, c'était le pâturage. On mit les terres en prairie et l'on y fit pâturer les moutons et les bœufs. Il y en eut qu'on ne se donna même pas la peine de mettre en prairie et où l'on parqua des porcs. Il y avait encore un autre avantage, c'est que pour labourer, ensemencer, récolter un champ de 400 arpents, il eût fallu 10 chevaux et 20 serviteurs. Pour garder 3, 4, 5, 6 troupeaux, il ne fallait que 3, 4, 5, 6 esclaves. Les redevances, au reste, se payaient à la République, comme elles se paient aujourd'hui encore en Italie, en nature. Cette redevance était... Pour les terres susceptibles d'être ensemencées, du 10e. Pour les bois, du 5e. Pour les pâturages, d'un certain nombre de têtes de bétail, selon le bétail qu'ils devaient nourrir. Or, on paya bien les redevances telles qu'elles étaient mentionnées. Seulement, quand il fut évident que l'on gagnait plus à faire des élèves qu'à labourer, on acheta le blé, l'avoine, le bois. On paya avec le blé, l'avoine et le bois achetés, et l'on récolta des bestiaux en place de grains. Peu à peu, les baux de 5 ans se changèrent en baux de 10 ans, les baux de 10 ans en baux de 20 ans, et de 10 années en 10 années, on arriva aux baux amphithéotiques. Les tribuns du peuple, qui avaient vu à quel abus conduisait un pareil état de choses, avaient bien, autrefois, fait passer une loi par laquelle il était défendu de détenir plus de 500 arpents de terre, et de posséder en troupeau plus de 100 têtes de gros bétail et 500 de menus. La même loi ordonnait aux fermiers de prendre à leur service un certain nombre d'hommes libres pour inspecter et surveiller les propriétés. Mais rien de tout cela ne fut respecté. Les questeurs reçurent des pots de vin et fermèrent les yeux. Au lieu de 500 arpents, par les transactions frauduleuses et en mettant l'excédent sur la tête d'amis, on en eut 1000, 2000, 10 000. Au lieu de 100 têtes de gros bétail et de 500 de menus, on en eut 500, 1000, 1500. Les surveillants libres furent éloignés sous prétexte de services militaires. Quel était le questeur à ces mauvais citoyens pour ne pas approuver une pareille désertion au bénéfice de la patrie? On ferma les yeux sur l'absence de surveillants comme on les avait fermés sur le reste. Les esclaves qui n'étaient point appelés à porter les armes multiplièrent tout à leur aise, tandis qu'au contraire la population libre, continuellement décimée, alla s'anéantissant, et l'on arriva à ce que les plus riches et les plus honorables citoyens, fermiers de père en fils depuis 150 ans, finirent par se regarder comme propriétaires de ce terrain, qui, en réalité et comme l'indiquait son titre, appartenait à la nation. Or, jugez quel cri jetaient tous ces faux propriétaires lorsqu'il était question, comme mesure de salut public, c'est-à-dire pour raison majeure, de résilier des baux sur lesquels reposait toute leur fortune. Et quelle fortune! Les deux Gracchus y laissèrent la vie. À son retour d'Asie, P. Pompée avait déjà menacé Rome d'une loi agraire. Lui ne s'inquiétait pas du peuple. Pompée, représentant de l'aristocratie, s'en souciait assez peu. Il croyait avant tout à l'armée et voulait doter ses soldats. Mais il avait naturellement trouvé un opposant dans Cicéron. Cicéron, l'homme des demi-moyens, l'odilon barreau du temps, avait proposé, lui, d'acheter des terres et non de les partager. Il employait à cet achat 5 ans des nouveaux revenus de la République. Disons en passant que Pompée avait plus que doublé les revenus de l'État. Il les avait portés de 50 à 135 millions de drachmes, c'est-à-dire d'une 40aine de millions à 108 millions. Or, la différence, pendant 5 ans, faisait environ 340 à 350 millions. Le Sénat s'était élevé contre la proposition de Pompée et avait, comme on disait du temps du gouvernement constitutionnel, passé à l'ordre du jour. César arrivait à son tour et reprenait la question où elle avait été abandonnée. Seulement, il joignait les intérêts du peuple à ceux de l'armée. Cette nouvelle prétention fit grand bruit. On craignait la loi agraire, sans doute. Tant d'intérêts se rattachaient à ces abus des beaux amphithéotiques dont nous avons donné une idée. Mais ce que l'on craignait surtout, Caton le dit tout haut, c'était la popularité gigantesque dont jouirait celui qui viendrait à bout de l'appliquer. Et il faut le dire, il y avait une énorme chance pour que celui-là fût César. La loi de César était la meilleure qui eût encore été faite à ce qu'il paraît. Nous avons sous les yeux l'histoire du consulat de César par Dion Cassius, et voici ce que nous y lisons. César proposa une loi agraire qui était exempte de tout reproche. Il y avait alors une multitude oisive et affamée qu'il était essentiel d'occuper aux travaux de la campagne. De notre côté, l'Italie devenant de plus en plus déserte, il s'agissait de la repeupler. César y arrivait sans faire aucun tort à la République. Il partageait la guerre publicus, et particulièrement la compagnie, à ceux qui avaient 3 enfants et davantage. Capoue devenait une colonie romaine. Mais comme la guerre publicus ne suffisait pas, on achetait des terres de particuliers au prix du cens, avec l'argent rapporté par Pompée de la guerre contre Mithridate, 20 000 talents, 140 millions. Cet argent devait être employé à fonder des colonies où trouveraient place les soldats qui avaient conquis l'Asie. Et en effet, comme on le voit, il y avait peu de choses à redire à cette loi qui contentait à peu près tout le monde, excepté le Sénat, qui craignait la popularité de César. Elle contentait le peuple à qui l'on faisait une magnifique colonie dans un des plus beaux sites et sur une des plus riches terres d'Italie. Elle contentait Pompée qui y trouvait l'accomplissement de son désir, c'est-à-dire la récompense de son armée. Elle contentait presque Cicéron, à qui l'on empruntait l'équivalent de son idée. Seulement, on se rappelle que l'on avait fait nommer Bibulus collègue de César, afin que le Sénat eût en lui l'incarnation de la résistance systématique. Bibulus s'opposa systématiquement à la loi. César ne voulut point d'abord employer la force. Il fit supplier Bibulus par le peuple. Bibulus résista. César résolut d'attaquer le taureau par les cornes, comme dit le proverbe moderne, et comme devait le dire quelques proverbes anciens. Il lut la loi en plein Sénat. Puis, après cette lecture, il interpella alternativement tous les sénateurs. Tous approuvèrent la loi de la tête et la repoussèrent du vote. Alors César sortit et, appelant Pompée, « Pompée, demanda-t-il, tu connais ma loi, tu l'approuves, mais la soutiendras-tu ?»« Oui. » répondit hautement Pompée. Mais de quelle façon ? Demanda César. Oh, sois tranquille, répondit Pompée, car si quelqu'un l'attaque avec l'épée, je la soutiendrai avec l'épée et le bouclier. César tendit la main à Pompée, Pompée lui donna la sienne. Le peuple applaudit en voyant ces 2 vainqueurs s'allier dans une question où il était intéressé. En ce moment, Crassus sortait du Sénat. Il vint à Pompée, avec qui nous avons dit que César l'avait réconcilié. « S'il y a alliance, dit-il, j'en suis. »« Eh bien, dit César, joignez votre main aux nôtres. » Le Sénat était perdu. Il avait contre lui la popularité, c'est-à-dire Pompée, le génie, c'est-à-dire César, l'argent, c'est-à-dire Crassus. De cette heure date l'ère du premier triumvirat. la voix de ces hommes réunis valait un million de suffrages.